Le consentement est-il toujours libre lorsque la seule alternative est de payer pour ne pas faire l'objet d'un traitement? La pseudonymisation des données personnelles hébergées chez un fournisseur américain écarte-t-elle le risque de communication au service de renseignement? Comment l'Agence de protection des données espagnole a pu interdire un traitement de données en Allemagne? Voici quelques-unes des questions qui ont surgi cette semaine dans l'actualité de la protection des données. Bienvenue dans Espace Confidentiel, le podcast dédié au DPO et à la protection des données. Je suis François-Xavier Cao, cofondateur d'Olympe Legal, une solution d'IA spécialisée dans la protection des données. Et j'ai le plaisir d'animer ce podcast en compagnie de Guillaume Champeau, DPO et directeur juridique chez Olympe. Bonjour Guillaume.
Salut FX.
Ravi de te retrouver cette semaine pour notre revue hebdomadaire de l'actualité dans le domaine de la protection des données personnelles. Cette semaine, il y a une nouveauté puisqu'on a vu le succès de ta newsletter de qualité et qui est donc salué également par notre audience. On vous remercie pour également l'intérêt que vous portez à nos travaux. Et donc, nous avons publié sur l'application Olympe Legal un module de veille qui vous permet de consulter l'intégralité et même plus encore des actualités que nous passons en revue dans ce podcast. Donc, si vous souhaitez approfondir quelques sujets concernant l'actualité, n'hésitez pas à vous y rendre et n'hésitez pas également à nous faire part de vos retours. Nous sommes tout à fait preneurs. L'objectif, c'est de rendre ça le plus agréable, le plus utile pour vous. Nous avons également la chance aujourd'hui d'être accompagnés de Pauline Riera, qui est la startup manager de l'incubateur d'Assas Lab, et également l'organisatrice de la Tech Up Legal Day. Donc, nous y reviendrons en fin de ce podcast. Et sans plus tarder, Guillaume, je te propose d'attaquer les sujets de l'actualité de cette semaine qui sont très intéressants. Nous avons retenu donc trois actualités principales. Et la première, elle est reliée à un sujet que nous connaissons tous bien, nous expérimentons au cours de notre navigation, particulièrement sur les médias. Puis il s'agit en fait de la pratique des cookie wall, on peut dire, des payer consent. C'est-à-dire vous payez ou consentez à accéder au contenu. Donc, je te laisse certainement la parole pour nous en dire un peu plus sur ce sujet.
Oui, c'est entre le cookie wall et le paywall. Je ne sais jamais trop exactement comment on doit appeler ça. En tout cas, le principe, c'est ces bandeaux de cookies qui vous disent soit vous acceptez les cookies, soit votre autre option, c'est de payer un abonnement ou un accès payant, en tout cas, pour pouvoir accéder au contenu. Et donc la grande question qui se pose, c'est est-ce que c'est conforme au RGPD ou non ? Et là-dessus, on a eu la Cour de justice de l'Union européenne en juillet dernier qui a, on va dire, posé des petits cailloux pour laisser entendre qu'effectivement, ça pourrait être conforme au RGPD à condition que la somme qui est demandée à l'internaute soit appropriée, ce qui demande de savoir calculer ce qu'est une somme appropriée et puis de se demander est-ce que ça, c'est objectif ou est-ce que c'est approprié en fonction des situations un peu subjectives de tout le monde. Donc, est-ce que quelqu'un qui est au RSA en France, la somme qui lui est demandée, est-ce que c'est la même qu'un ouvrier polonais ou un cadre supérieur en France ou en Allemagne ? Voilà, c'est la question du pouvoir d'achat est forcément... Pose la question de la réalité du consentement quand vous n'avez pas les moyens de vous offrir l'abonnement qui est demandé. Donc, votre seule option réelle, c'est de cliquer sur le bouton « J'accepte » dans le fait que vos données soient traquées à des fins publicitaires. Et donc, on sait qu'on a dans les jours ou dans les semaines qui viennent des avis qui doivent être publiés. À la fois d'un point de vue national, on attend une communication de la CNIL. Et puis surtout, du point de vue européen, on attend une prise de position du CEPD, le Comité européen à la protection des données, qui doit donner des directives sur comment rendre tout ça conciliable avec le RGPD. Et ce qui rentre en... Donc c'est l'actualité de la semaine, ce qui rentre en... sans dire en conflit, mais enfin en tout cas, ce qui vient cogner cette actualité-là, c'est la décision de la Commission européenne d'ouvrir une enquête formelle contre Meta, donc qui est l'éditeur de Facebook et d'Instagram notamment, qui a mis en place ce type de paywall ou de cookie wall, où vous n'avez aucun autre choix que de soit consentir au fait que Meta prend vos données personnelles et les croise entre ses différents services, notamment à des fins publicitaires, ou vous payez un abonnement qui peut être supérieur à une dizaine d'euros par mois pour chacune des plateformes. Et à ce moment-là, vous n'avez pas de publicité du tout. Et ce que dit la Commission européenne dans son communiqué pour expliquer l'ouverture de cette enquête, c'est que alors c'est pas directement une question de conformité au RGPD, pas directement, mais vous verrez qu'indirectement si. Mais c'est plutôt en conflit avec un nouveau texte qui vient de rentrer en application, qui est le Digital Markets Act, le fameux DMA. Et dans le DMA, vous avez un article, qui est l'article 5.2, qui dit qu'à partir du moment où vous êtes désigné contrôleur d'accès, ou gatekeeper, comme on dit en anglais, vous avez une puissance sur le marché importante, vous êtes quelque part incontournable pour les internautes, il y a un certain nombre de traitements que vous ne pouvez pas faire sans avoir un consentement de l'internaute, et notamment vous ne pouvez pas agréger des contenus, les combiner entre les différents services ou croiser les données entre les différents services. Pour ça, vous ne pouvez le faire que si vous avez un consentement réel de l'internaute. Et ce consentement, il se trouve qu'il est assis sur le RGPD. Et ce que dit la Commission, c'est que la manière binaire qu'a Meta d'imposer ce choix entre un abonnement payant ou le consentement au tracking à des fins publicitaires, c'est probablement pas un réel consentement. Et donc ça peut, en fonction des analyses que va faire la Commission européenne, entrer en collision avec les analyses que vont faire les CNIL et le CEPD au niveau européen. Donc ça pose évidemment des questions, et ça ne fait que rendre encore plus complexe cette question qu'il l'était déjà, et en tout cas de confirmer le fait que c'est le sujet chaud du moment en matière de protection des données, parce que, puis on va pouvoir en parler, mais il y a des implications à la fois juridiques et éthiques dans l'approche de la protection des données qui sont extrêmement importantes.
Alors oui, tu as raison de le souligner. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, fidèlement, que ce soit aussi important, parce que ça a tendance à limiter, malheureusement, la perception de la question de la conformité au RGPD à ce type de pratique, ces fameux cookie wall, les bandes aux cookies, etc. C'est un sujet qui, malheureusement, occupe beaucoup le devant de la scène, alors que d'autres sujets beaucoup plus prégnants, je dirais, me semblent beaucoup, tout autant, voire beaucoup plus même importants à aborder.
Oui, en même temps, sur cette question-là, elle va concentrer beaucoup de choses, et quelle que soit, quelque part, la position qui va être prise, ça va avoir des répercussions très importantes. Si par exemple, on estime que on va appeler ça des paywalls, si ces paywalls sont conformes au RGPD, ça veut dire que vous avez un droit à la vie privée qui n'est pas le même selon que vous avez ce fameux pouvoir d'achat ou non. Et donc, ce droit à la protection de la vie privée, qui est censé être un droit fondamental où chaque individu peut en bénéficier, normalement, peu importe sa condition sociale, finalement, ça devient en Europe un droit que vous avez potentiellement l'obligation d'acheter si vous voulez en bénéficier, parce que si vous ne l'achetez pas, votre seule autre option, c'est de consentir à la collecte ou au traitement de vos données personnelles. Donc ce sera un changement de paradigme assez important dans la façon dont on a d'aborder la protection des données en Europe, où normalement la tradition, c'est que les données n'ont pas de valeur patrimoniale. Là, du coup, on va mettre un prix quelque part en face de ces données. Et puis, au contraire, si la position, c'est que les paywalls sont interdits, ça va avoir une implication non pas sur la protection des données, plutôt sur la liberté d'accès à l'information ou la liberté de communication, puisqu'on peut imaginer qu'il y a beaucoup de plateformes aujourd'hui qui rendent leur contenu gratuit en échange de publicité ciblée, publicité qui implique des traitements de données personnelles. Et en fonction des modèles économiques qui vont ou non se développer, vous pourriez arriver dans une situation où le payant va se développer beaucoup et qu'on va progressivement fermer l'accès à ces contenus, à ces informations ou à ces plateformes de communication. Et donc ça a forcément des implications sur les libertés fondamentales, sur les droits fondamentaux, que ce soit en matière de protection des données ou d'accès à la liberté d'information. C'est vraiment ce qui rend ce sujet-là particulièrement complexe, mais aussi, je trouve, particulièrement passionnant à suivre.
Oui, tout à fait. Comme tu le soulignes, beaucoup d'enjeux en fait, d'interprétation qui vont au-delà de la simple question de cette pratique sont malheureusement en fait mis en balance avec des intérêts, avec des interprétations différentes, beaucoup moins rigoureuses, je dirais, de la lecture qu'on pourrait en faire de prime abord du RGPD. Ça me rappelle également la position nationale, du que le Conseil d'État, avec des arguments juridiquement valables, en disant qu'effectivement la CNIL ne pouvait pas user de son pouvoir, on va dire, doctrinal en termes administratifs pour interdire cette pratique, et qu'il aurait fallu recourir à la loi pour le faire. C'était juridiquement valable. Après, effectivement, ça enfonce le clou quand même d'une pratique, enfin de l'acceptation d'une pratique qui, voilà, comme tu le soulignes, me semble un peu attentatoire effectivement à ce droit. Tu as dit la vie privée ou la protection des données personnelles, mais je pense qu'on s'est compris. Donc effectivement, affaire à suivre. La deuxième actualité que nous souhaitons mettre en exergue cette semaine est celle justement du Conseil d'État qui a rejeté en référé la suspension du transfert de données de santé à Microsoft. Donc pour un peu de contexte, voilà, la CNIL avait, on va dire, avalisé, si on peut le dire, le fait que le Health Data Hub, c'est-à-dire le centre des données de santé des Français, soit hébergé chez Microsoft. Et ça avait effectivement provoqué une levée de bouclier chez plusieurs acteurs hein, de la scène des hébergeurs, on peut dire, au niveau national. Et je pense que d'ailleurs, c'est une question que tu connais bien, puisque tu as pu œuvrer chez l'un de ces acteurs. Donc, je te laisse nous en parler un peu plus.
Exactement. Ouais. Alors, pour être un tout petit peu plus précis, ce dont il s'agit, c'est des données qui sont dans un entrepôt qui s'appelle EMC2, qui est destiné à être partagé avec l'Agence européenne des médicaments pour faire un certain nombre de travaux de recherche et de développement, ben justement en matière de médicaments. Et donc, on va prendre les données de centaines de milliers de patients et on va les envoyer vers cette plateforme-là. Plus vous aurez les données de, je ne sais plus exactement, mais entre 1 et 2 millions de patients témoins, quelque part, pour permettre une comparaison de l'efficacité des traitements qui sont en cours de développement. Et ce traitement-là, vu qu'on manipule des données de santé, il n'y a pas énormément d'autres solutions que de soit se conformer à un référentiel de la CNIL sur les données de santé. À ce moment-là, vous avez le droit d'en faire le traitement, ou alors vous devez obtenir l'autorisation de la CNIL. Et on est dans le cadre de MC2, vous êtes dans ce deuxième cas, c'est-à-dire que la plateforme des données de santé ne peut pas réaliser ce transfert de données sans avoir l'aval de la CNIL. Et la CNIL a donné son aval le 21 décembre 2023, donc en fin d'année dernière. En fait, elle renouvelle un accord pour une durée de 3 ans. Et alors effectivement, disclaimer, j'ai travaillé pour un des acteurs qui est impliqué dans le recours qui est exercé contre cette décision auprès du Conseil d'État, qui est Clever Cloud, mais qui sont accompagnés par d'autres fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement sur le cloud, des associations de protection des droits et des libertés sur Internet, et puis des particuliers aussi qui ont décidé d'attaquer cette décision à titre individuel, et qui reprochaient à la CNIL finalement d'avoir autorisé un transfert des données vers Microsoft, alors que le droit américain donne notamment aux services de renseignement américains le droit d'accéder sur requête plus ou moins officielle, ou en tout cas plus ou moins connue, c'est-à-dire d'un côté avec le Cloud Act, avec des procédures judiciaires assises sur le droit pénal, et là on imagine que c'est très rare, voire improbable, que le Cloud Act soit utilisé pour accéder à des données de santé de Français hébergés, y compris en France, par une entreprise américaine. Mais surtout, il y a la loi FISA, qui est une loi sur les services de renseignement, où là, sur un spectre beaucoup plus large, où dès qu'il est question des intérêts américains, les services de renseignement américains peuvent aller piocher des données sans même qu'on le sache. Et évidemment, les données de santé peuvent intéresser les renseignements qui s'intéressent à l'état de santé d'un chef d'entreprise, d'une personne qu'elles sont dans leur viseur en particulier, des responsables politiques et autres. Donc ça posait la question de la confidentialité des données, le fait d'héberger comme ça chez un prestataire américain qui, au passage, n'avait pas fait l'objet à l'époque d'un appel d'offres. Donc qui a été, on va dire, la CNIL a été placée un peu devant le fait accompli et on lui a demandé de, j'appellerais, tamponner une décision qui était en fait une décision déjà prise sans avoir réellement comparé la concurrence, puisque même le cahier des charges techniques pour savoir comment ces données de santé devaient être hébergées, dans quelles conditions, quels étaient les outils techniques qui permettaient de faire des calculs dessus, etc., n'ont été fournis qu'extrêmement tardivement, ce qui n'a pas permis aux concurrents, notamment français et européens, de se positionner sur ce marché-là. Et la CNIL, on lui a fait constater quelque part que les concurrents à Microsoft n'étaient pas au rendez-vous d'un point de vue technique ou commercial, et donc qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et donc la CNIL a dit, elle a expliqué dans sa décision qu'elle prenait cette décision à regret, mais qu'elle n'avait finalement pas d'autre choix que d'avalider cette décision-là, ce qui était contesté devant le Conseil d'État, et dans une procédure de référé, c'est-à-dire qu'on lui demandait en urgence de suspendre ce traitement, puisque les données doivent commencer à être envoyées sur EMC2 dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et le Conseil d'État répond non, dit qu'il n'y a pas de caractère d'urgence au fait de suspendre ces transferts-là, pour deux raisons principales. La première raison, c'est que les données sont suffisamment ou sont réputées suffisamment sécurisées, c'est-à-dire que même en cas d'accès, le Conseil d'État dit en principe, là j'ouvre les guillemets, hein, le principe du fait que les services de renseignement américains puissent accéder à ces données n'est pas totalement écarté. Donc le Conseil d'État confirme que le droit américain permet d'accéder à ces données-là, mais il estime que le risque est suffisamment réduit, et là je rouvre les guillemets, notamment du fait que les données seront pseudonymisées. Donc à partir du moment où vous pseudonymisez des données de santé pour les envoyer, les transférer à un prestataire américain, le risque serait suffisamment contenu d'un point de vue technique. Ce qui est assez amusant ou naïf, chacun choisira son terme, sachant qu'il y a quelques semaines encore, la Maison-Blanche elle-même a publié un executive order, c'est-à-dire un décret présidentiel, pour interdire à un certain nombre d'acteurs internationaux, en particulier les acteurs chinois, russes, d'héberger des données de santé d'Américains, et dans cet executive order, la Maison-Blanche explique que les données anonymisées peuvent être désanonymisées, et donc ça ne sécurise en rien. Donc, bon, visiblement, ce n'est pas un argument, même s'il vient de la Maison-Blanche, qui a convaincu le Conseil d'État. Premier point qui sera probablement contesté quand l'affaire ira au fond dans quelques semaines. Et puis la deuxième raison qui fait que le Conseil d'État a refusé la suspension en urgence, qui est, à mon avis, politiquement et philosophiquement encore plus contestable. Ce qu'ils disent, finalement, il y a un projet d'étude par l'Agence européenne des médicaments qui demande que ces données soient envoyées là, dans les semaines qui viennent. Et donc, quelque part, l'urgence, l'intérêt public qui est que ces données soient envoyées au niveau européen pour être traitées est quelque part supérieur à l'intérêt qu'on pourrait avoir à empêcher ce transfert. Et donc l'urgence du traitement par les instances européennes est supérieure à l'urgence d'une meilleure protection des données, ce qui est un point de vue qui, là encore, pourrait être contesté au fond dans les semaines qui viennent.
Alors oui, effectivement, tout cela est sujet à interprétation. C'est d'ailleurs en cela, finalement, que le droit des données personnelles est une matière vivante, et c'est une science humaine. Hein. C'est toujours une affaire de point de vue. Et d'ailleurs, en affaire de point de vue, voilà, il y en existe aussi parfois des différends entre les agences nationales de protection des données. Hein. Alors la CNIL en est une, bien sûr, mais il y en a également, bah, vous le savez certainement, chers auditeurs, dans d'autres pays de l'Union européenne, et notamment en Espagne, qui, semblerait-il, a un peu innové d'un point de vue procédural pour s'attaquer à un projet qui s'appelle WorldCoin, qui traite, on va dire, des données biométriques. Alors, je te laisse nous en parler un peu plus, Guillaume.
Alors, pour être exact, l'actualité de cette semaine, elle est plutôt au Portugal, mais effectivement, on va revenir sur l'Espagne parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que les deux pays ont pris la décision d'interdire, au moins provisoirement, ce traitement qui est réalisé par WorldCoin, qui est une entreprise, une fondation, parce qu'en fait, tout ça est assez compliqué. Il y a des imbrications de structure, donc une partie associative, une partie plus commerciale.
Ouais, disons que même Sam Altman lui-même dit que son mode de gouvernance n'est pas le plus optimisé.
Voilà, on va dire ça comme ça. Mais donc, tu l'as dit, ça vient de Sam Altman, qui est bien connu pour être le le CEO de d'OpenAI, et donc qui est derrière ChatGPT, et qui a lancé il y a quelques mois, un peu moins d'un an, cette crypto-monnaie qui est le WorldCoin. Et pour pouvoir bénéficier de cette monnaie, mais surtout pour pouvoir en recevoir, il faut créer un compte sur une application mobile qui s'appelle le World App, et cette application elle-même demande à ce que vous ayez une identité, votre identité d'humain qui soit vérifiée. Et pour vérifier cette identité d'humain qui est donc unique, vous devez utiliser une machine qu'on appelle un orb, qui va scanner votre iris, prendre une photo de votre visage et de vos yeux, donc conserver un certain nombre de données biométriques. Tout ça est passé à la moulinette, il y a un calcul qui est fait pour en déduire un identifiant unique qu'on appelle le World ID. Et puis une fois que cet identifiant unique est calculé, vous ne pouvez pas le supprimer. C'est-à-dire que cet identifiant il reste dans la base et vous êtes encouragé même à faire que les photographies de votre, ou je ne sais pas exactement si c'est des photographies d'ailleurs ou autre chose, mais en tout cas les données de votre iris, des deux yeux, plus les photos de vos yeux, plus les photos de votre visage, tout ça reste dans une base de données qui est accessoirement stockée chez Amazon. Pour en fait que régulièrement ça, quand il y a des mises à jour de l'algorithme qui calcule le World ID, tout ça soit puisse être mis à jour sans que vous ayez besoin de revenir à une machine, puisque tout ça demande de vous déplacer physiquement pour aller à une machine, un orbe. Et en Espagne, WorldCoin déploie ça progressivement dans quelques pays. Il y a moins aujourd'hui d'une dizaine de pays au monde qui peuvent accéder à ces WorldCoin et donc dans lesquels vous avez ces fameux orbes. Mais il y en a au moins deux, trois, je crois, en Europe. C'est-à-dire vous avez l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal, mais il y en a peut-être d'autres qui m'échappent. Et les pays commencent à réagir. Donc l'Espagne l'a fait de façon assez spectaculaire en début d'année, puisque là, ils ont utilisé une procédure qui est très rare, voire je crois que c'est inédit. C'est-à-dire que c'est la procédure qui est prévue par l'article 66 du RGPD, qui dit qu'une autorité de protection des données nationale peut ordonner à un responsable de traitement qui est normalement sous l'autorité d'une autre autorité de protection des données en Europe, une autorité chef de file, de prendre des mesures d'urgence. Et là, en l'espèce, c'est la procédure qu'a choisie l'Espagne à l'encontre d'une des entités un peu dans la nébuleuse de WorldCoin, qui est une société commerciale qui est basée en Allemagne. C'est-à-dire que le siège commercial de WorldCoin est une entreprise commerciale allemande, et donc normalement l'autorité chef de file serait l'autorité allemande. Mais là, l'Espagne a jugé que c'était tellement urgent d'empêcher les Espagnols d'aller faire ce type de traitement qu'elle a choisi d'utiliser la procédure de l'article 66, et donc elle a suspendu pour 3 mois les traitements de données biométriques qui sont associés, pour différentes raisons, mais on va dire les raisons principales, c'est d'une part, les mineurs, les enfants, peuvent se rendre dans les points où vous avez les orbes et créer leur compte, et personne ne leur demande jamais de vérifier effectivement s'ils sont mineurs ou majeurs, et donc ils créent des comptes, ils donnent leurs données biométriques sans que les responsables légaux, en général les parents, donnent leur accord. L'autre raison, c'est qu'il y a une grande opacité sur, notamment en termes de documentation contractuelle, sur ce qui est fait exactement des données, donc quelles sont les données qui sont collectées, à quelle fin, comment elles sont conservées, quels sont les droits que vous pouvez exercer dessus. Tout ça est extrêmement opaque. Et à travers la presse, à travers les retours des utilisateurs, finalement, les autorités de protection se rendent compte que les utilisateurs n'ont absolument aucune idée de ce qui est fait de leurs données et réalisent après coup les risques qui sont associés à ce type de traitement, puisque contrairement à un mot de passe, une fois que quand vous faites pirater votre mot de passe, éventuellement, vous pouvez le changer. Quand vous faites pirater une signature d'iris, vous ne pouvez pas changer votre œil, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et ça fait partie des problèmes qu'il y a. Puis il y a d'autres problèmes, et notamment, il y en a un fondamental, qui est le fait que quand votre World ID est calculé, il est stocké dans la base de données, et vous ne pouvez pas demander à l'effacer, ce qui est complètement contraire, normalement, au droit de la protection des données européens, où vous pouvez toujours demander un effacement de vos données, ou vous opposer à un traitement. Retirer votre consentement, même si vous avez donné votre consentement un jour, vous devez pouvoir le retirer le lendemain. bah, tout ça, c'est pas admis par Worldcoin. Et donc, l'autorité portugaise qui s'est aussi intéressée au dossier a pris la même décision, qui est de suspendre, d'obliger Worldcoin à suspendre ses traitements pour une durée de 3 mois, sauf que d'un point de vue procédural, elle a fait différemment. C'est-à-dire que plutôt que d'enjoindre la filiale allemande, donc le siège social européen de l'entreprise qui gère ce service-là, elle a considéré que le responsable de traitement, c'était la fondation Worldcoin, qui est de droit américain. Puisque c'est une entité américaine, il n'y a pas d'autorité chef de file en Europe, et donc elle a directement enjoint la fondation aux États-Unis, en lui donnant 24 heures pour arrêter tout traitement de données au Portugal. Mais j'ai envie de dire que le mal était fait, puisque malheureusement, là, cette procédure-là, ils l'ont lancée dès le mois d'août, et il y a déjà eu plus de 300 000 Portugais qui ont été donnés leurs données en échange de je ne sais pas combien de WorldCoin, mais donc ils ont vendu leur iris ou leur image de l'iris en échange d'une monnaie qui demain leur permettra on ne sait pas quoi, mais qui est également convertible en euros. Donc on nage quand même un peu dans une espèce de dystopie, je trouve, avec ce sujet-là.
Alors effectivement, oui, on nage dans une dystopie qui, je trouve, et je ne sais pas si nos auditeurs penseront la même chose, montre à quel point finalement la valeur, je dirais, marchande de nos données finit par être quelque chose d'accepté dans les valeurs sociétales, hein, qui sont les nôtres. Puisque, comme tu l'as souligné, plusieurs milliers de personnes ont déjà fourni leurs iris en toute connaissance de cause. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui fondamentalement ne heurte pas de monétiser ces données personnelles.
Après, on peut espérer que si ça arrive en France, la CNIL soit un peu plus réactive et donc que ce soit très vite arrêté. Mais pour le moment, c'est
oui. Après, c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble quand on avait préparé donc cette revue des actualités. Mais il y a des magasins qui proposent notamment de prendre des photos de nos iris pour les afficher, en faire des cadres, des tableaux. Mais quid du coup des données? C'est-à-dire des photos de ces iris qui sont prises à l'occasion pour imprimer du coup ces tableaux. Il est possible, mais ça reste de la spéculation, hein, bien évidemment. En tout cas, ce n'est juste qu'une suspicion. C'est tout simplement que ces données pourraient potentiellement servir également à ce type d'usage dans le World ID. Dont le World ID, pardon.
On espère que non.
On espère que non, bien évidemment, et ce serait très présomptueux de notre part d'affirmer que ce soit le cas. Cher Guillaume, je crois que nous avons atteint la fin de cette revue hebdomadaire de l'actualité relative à la protection des données. C'est maintenant le volet événementiel, puisque effectivement, le monde de la protection des données personnelles bouge beaucoup. Il existe pas mal d'événements professionnels très intéressants auxquels nous conseillons notre audience d'assister. Et c'est dans ce cadre que nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir Pauline Riera, qui est la fondatrice et l'organisatrice de l'événement Take Up Legal Day. Bonjour Pauline.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre podcast.
Et nous en sommes ravis.
Merci beaucoup, je suis du coup la fondatrice de Take Up Legal et on organise avec l'incubateur Assas Lab, l'incubateur de l'université Paris-Panthéon Assas, la Take Up Legal Day, au centre Assas, comme tu l'as dit, et c'est à destination des professionnels du droit, mais également des étudiants en droit. Et ça sera sur la thématique de l'innovation juridique. Donc toute la journée, on va organiser des tables rondes à destination donc, des juristes, des DPO, des avocats, et ça va traiter surtout de sujets comme l'intelligence artificielle ou également... pour les DPO qui nous écoutent, la protection des données à l'ère de cette fameuse intelligence artificielle, quels sont leurs nouveaux défis, comment l'utiliser. Voilà,
il y aura pas mal... Avec de nombreux exposants.
Oui, il y aura pas mal aussi d'exposants, donc essentiellement des legal tech. On a quelques cabinets d'avocats, un éditeur juridique et un média juridique. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir rencontrer ces acteurs pour en apprendre sur leurs solutions, sur ce qui se fait en ce moment. Ça sera l'occasion.
Il faut s'inscrire ou c'est en...
Oui, alors c'est une inscription gratuite mais obligatoire et c'est on a créé un Eventbrite, donc il faut juste taper Take Up Legal Day et s'inscrire sur l'Eventbrite.
D'abord, on mettra le lien dans la description du podcast pour les podcasts, il y a la description.
Et il me semble que tu es également startup manager du centre Assas Lab, donc qui est l'incubateur de LegalTech de l'université Assas et qui est ouvert aux porteurs de projets. C'est bien cela ?
Exactement. Donc, l'incubateur de l'université Paris-Panthéon-Assas est ouvert aux étudiants de l'université, mais également aux alumni. Et pour renforcer l'écosystème LegalTech, parce qu'on a trois quarts de nos étudiants qui sont des étudiants en droit, on a ouvert l'incubateur à tout porteur de projet de LegalTech qui peuvent s'inscrire à l'incubateur et peuvent être accompagnés.
Alors, c'est vrai que le Assas Lab est ouvert aux porteurs de projets, mais également aux startups un peu plus avancées, donc des Legal Tech, comme la nôtre, chez Olympe. Nous sommes donc incubés au Assas Lab et le processus de candidature peut s'amorcer en ligne. C'est bien cela, Pauline ?
Exactement. Alors, pour ça, vous allez sur le site d'Assas Lab. Vous tapez candidature à Assas Lab et il y aura un dossier à remplir avec vos projets, si vous avez déjà été financé, plein de détails. Et nous, après, on l'étudie et on fait un entretien avec le ou la porteur de projet. On échange pour voir ce qu'on peut apporter à ce projet-là et comment on peut l'accompagner. Et voilà, c'est un entretien qu'on fait assez rapidement généralement. Et il n'y a pas de date. Vous pouvez à tout moment candidater. Et nous, au fil de l'eau, on contacte les porteurs de projets.
Et justement, pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers, un incubateur, ça apporte quoi à un porteur de projet ? Ça lui apporte des fonds ? Ça lui apporte autre chose ? C'est quoi là ?
Alors, en fait, nous, on a un incubateur académique, donc on n'apporte pas de fonds, mais on apporte un soutien. Ça dépend à quel niveau est le porteur de projet, si c'est une société qui est déjà bien en place ou si c'est vraiment au tout début de l'idée. Et nous, on l'accompagne en fonction de son niveau. Et après, nous, on met en contact avec tous les experts qu'on a. On a tout un tas d'experts sur plein de compétences différentes, que ce soit justement un accompagnement sur le financement, comment être financé, comment lever des fonds. On peut également, s'il y a des problématiques juridiques, parce que nous, on a un fort réseau sur ces thématiques-là, mais sur tout type de thématiques, on met en contact avec des experts, et ce qui permet d'avoir vraiment un accompagnement bien poussé et en fonction surtout des besoins de chacun, qui ne sont pas forcément les mêmes en fonction des profils, parce qu'on n'a pas que des étudiants en droit d'ailleurs qui viennent à l'incubateur, on a aussi en éco-gestion, en infocommunication, et vraiment c'est un échange qu'on a avec eux de voir comment on peut les épauler au mieux.
Alors oui, outre l'accompagnement que tu viens de décrire, Pauline, qui est très intéressant, particulièrement pour les porteurs de projets, c'est également l'occasion, lorsque vous rendez au Assas Lab, de rencontrer d'autres personnes intéressées par les Legal Tech ou également des porteurs de projets qui sont toujours assez différents sur les types de profils. Comme tu l'as dit, outre l'aspect droit, il y a des personnes en éco, en gestion, en communication, et c'est toujours intéressant d'être à la croisée des compétences. Mais au-delà de cela, il y a également un échange culturel qui est intéressant, avec des points de vue assez originaux parfois sur la manière d'aborder les problématiques, et c'est l'occasion également de s'y rendre assez facilement puisque vous êtes dans Paris, il me semble.
Exactement. Et oui, on est bien à Paris. On n'est pas au centre Assas, nous, mais on est dans le 13e arrondissement, justement à côté de la station F. On est à une dizaine de mètres de la station F, ce qui permet également de pouvoir avoir cet écosystème bien plus grand et bien plus large que la LegalTech. Et c'est surtout l'entraide aussi, comme tu l'as dit, entre tous les porteurs de projets ou fondateurs de start-up, de LegalTech. Et on s'entraide beaucoup entre nous, puisqu'on n'a pas tous les mêmes compétences. Et c'est tous les midis, souvent on déjeune ensemble et on échange sur nos problématiques, on s'entraide. Et c'est vrai que c'est un écosystème assez aidant. Et pour ça, l'incubateur, c'est vraiment un lieu qui permet ces rencontres-là.
Eh bien, merci beaucoup, Pauline, pour cette présentation du Assas Lab, mais également de la Tech Up Legal Day donc, que tu organises et qui est donc un salon dédié au Legal Tech et qui se tient le 4 avril 2024 au Centre Assas à Paris et auquel donc, nous vous invitons, chers auditeurs et chères auditrices, à vous rendre si vous êtes intéressés par les sujets liés à l'innovation dans le droit, dans la pratique juridique, au Legal Tech, sachant qu'il y aura bien sûr une table ronde sur l'IA et la pratique des DPO. Je vous remercie.
Merci à toi, merci à vous deux.
Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie tous les deux. Et puis, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode de notre revue d'actualité en compagnie de Guillaume Champeau pour Olympe Légal. Bonne semaine à vous.